Merci. Radio France Internationale, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Toute l'actualité africaine avec Vincent Dublon.
Et on va débuter par une large page Guinée, ce journal, avec d'abord la visite de la CPI à Conakry pour s'assurer, comme chaque année, du bon déroulement de la procédure en cours dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, mais avec un contexte particulier, Marion, puisque l'un des principaux accusés condamné en première instance, Moussa Dadis Camara, a été gracié avant même un procès en appel. On sera ensuite, toujours à Conakry, au forum de la presse, avec une prise de parole hier du Premier ministre de Transition, Bahouri, critique envers les journalistes, ou plutôt envers les groupes de presse privée, vous l'entendrez. Au Mali, près de deux semaines et toujours pas de nouvelles des trois militants politiques enlevés. Va-t-on vers la fin de l'affaire Agathe Habyarimana en France ? 31 ans après le génocide des Tutsis du Rwanda, l'ancienne première dame rwandaise pourrait bénéficier d'un non-lieu, c'est ce qu'espère son avocat. Il reste toutefois un rendez-vous crucial demain devant la chambre d'appel de l'instruction.
C'est une visite classique, mais qui prend cette année une tournure particulière. Une délégation de la Cour pénale internationale est en Guinée.
La CPI qui accompagne les autorités guinéennes dans le processus judiciaire du dossier du massacre et des viols commis au stade de Conakry le 28 septembre 2009. On attend toujours un procès en appel. Procédure en cours donc, mais avec un événement majeur, je vous le disais, il y a deux mois, Sidi Ansané, la grâce accordée par le président à l'ancien putschiste Moussa Dadis Camara.
Depuis que la CPI s'est penchée sur le massacre du 28 septembre 2009, une dizaine de missions d'évaluation sont intervenues à Conakry pour s'assurer que l'engagement des autorités guinéennes à rendre justice aux victimes est respecté. Le procureur Karim Khan avait lui-même fait le déplacement à Conakry. Il s'était félicité de son ouverture dans le mémorandum d'accord signé avec le président de transition Mamadi Doumbouya, alors colonel. Mais avec la grâce accordée à Moussa Dadis Camara il y a deux mois, et ce moins d'un an après sa condamnation pour crimes contre l'humanité, ce mémo est fragilisé selon son article 4 qui indique que la CPI pourrait se saisir elle-même du dossier si elle constate, je cite, « toute mesure susceptible de nuire fortement à l'avancement de la justice ou toute obstruction au bon fonctionnement du tribunal ». Alseni Sall est le chargé de communication de l'OGDH qui représente les victimes.
C'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République, mais la grâce présidentielle est encadrée. Elle n'intervient que après une décision définitive dans une affaire judiciaire. Pendant que tout le monde attendait à l'ouverture d'un procès en appel, cette grâce qui a été accordée viole les principes les plus basiques en matière de procès équitable dans la mesure où la décision de grâce en sa faveur est intervenue pendant que la procédure n'a pas atteint une phase définitive dans cette affaire.
Le GDH déplore aussi un choix sélectif des autorités quant à l'indemnisation des victimes. Seuls 334 sont concernés alors que près de 500 étaient partis civils au procès.
Ainsi dit Ansané. La justice guinéenne qui condamne le secrétaire permanent du parti de l'ancien président Alpha Condé, le RPG, Sékou Condé, reconnu coupable de violation d'une mesure administrative, en l'occurrence l'interdiction de mener des activités politiques faites à sa formation. Il écope de 50 000 francs guinéens d'amende, l'équivalent de 5 euros. Le président de la Haute Autorité de la Communication, en Guinée toujours, qui espère que l'enquête sur la disparition du journaliste Habib Marwan Camara aboutira bientôt. Boubacar Yacine Diallo s'exprimait ici en marge du forum sur l'avenir de la presse. Il se tient en ce moment à Conakry. Le secteur de la presse demeure inquiet. En Guinée, il y a notamment la question de la suspension d'agrément des trois grands médias audiovisuels privés que sont Joma, FIM et Espace. Tanguy Billon a assisté à l'ouverture du forum.
Sur la tribune de la salle de conférence, face aux journalistes, il y a autant de militaires que d'autorités civiles. On note la présence, notamment, du général Abdoulaye Keïta, le chef d'état-major de l'armée de terre et membre du CNRD. Au pupitre, le Premier ministre Amadou Ouriba a mené une nouvelle offensive contre les propriétaires des médias audiovisuels fermés.
Ceux qui voulaient prendre la totalité de l'espace médiatique en estimant que c'est eux seuls, cette réalité est changée aujourd'hui. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, vous ne devez pas utiliser cette entreprise pour vos propres intérêts personnels stricto sensu.
Du côté des représentants de la profession, on mise sur la négociation. Aboubacar Camara est président de l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée.
La première doléance, c'est de permettre d'ouvrir ce dialogue qui doit aboutir à la restitution, si vous voulez, la rouverture de ces médias qui sont fermés, qui sont quand même de grands groupes de médias qui employaient beaucoup de personnes.
Même si le dossier des médias fermés semble pour le moment encore bloqué, le forum doit permettre des avancées sur la mise en place d'un organe d'autorégulation régulation des médias et sur la convention collective des journalistes. Tanguy Bihan, Conakry, RFI.
Et ce forum sur l'avenir de la presse guinéenne se poursuit aujourd'hui et demain à l'hôtel Palme Camayenne de Conakry.
Au Mali, elles continuent de demander des nouvelles de leurs proches. Les familles des trois militants pro-démocratie s'inquiètent.
Ça fait une dizaine de jours, presque deux semaines, qu'Alassane Abba et El Bachir Thiam ont disparu. Quelques jours après, c'était au tour d'Abdoul Karim Traoré. Selon nos informations, ils sont détenus par les services de renseignement maliens. David Baché.
Ils sont détenus séparément et leur libération n'est pas pour maintenant. De sources sécuritaires maliennes, les services de renseignement soupçonnent les trois hommes d'être impliqués dans des projets de déstabilisation et recherchent des informations sur d'éventuels contacts extérieurs. Des accusations balayées par leurs camarades de parti qui estiment qu'il s'agit essentiellement de réprimer et d'intimider tous les militants pro-démocratie. Une cellule de crise s'est constituée pour soutenir les familles d'Alassane Abba et d'Abdoul Karim Traoré et pour maintenir autant que faire se peut la pression sur leur cas. Une prière collective a été organisée au domicile d'Alassane Abba pour sa libération et celle des autres détenus. Dans l'entourage d'El Bachir Thiam, on indique garder le moral malgré la peur. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a quant à lui initié une série de visites de solidarité dans les familles des trois détenus, mais aussi dans celles de nombreux autres prisonniers d'opinion en détention depuis parfois plusieurs années. Razbach, Rose Vichère, Alou Badra Sakho. L'unité et la réconciliation chères à nos autorités demandent que tous ceux qui sont privés de leur liberté pour leur opinion soient relâchés, a commenté l'ancien Premier ministre sur les réseaux sociaux.
Le Mali, en bref, on en parlait dans longueur dans Afrique Midi si vous n'y étiez pas. Une rapide séance de rattrapage dans ce journal que vous pouvez prolonger bien sûr à tout moment sur l'application RFI. Le gouvernement malien qui prévoit 24 000 recrutements dans les forces de défense et qui annonce l'objectif à terme d'assurer 19 heures d'électricité par jour, sachant qu'il y a beaucoup de coupures en ce moment. Le Parlement de la transition en discutait hier. Bamako où s'est rendu hier également le ministre sénégalais des forces armées, le général Biram Diop, reçu par le président de transition, le général Assimi Goïta, le ministre sénégalais qui a déclaré porter un message de main tendue au Mali face aux défis extrêmement aigus auxquels fait face notre continent qui demande une grande solidarité. Fin de citation. Visite qui intervient juste après celle de ce week-end du premier ministre sénégalais à Ouagadougou au Burkina où il a tenu peu ou prou le même discours. Ousmane Sonko, qui d'ailleurs est revenu sur ce séjour de 48 heures dans un entretien à la télévision officielle sénégalaise. On en parle dans le prochain journal Afrique dans une heure.
Cotonou, 90 FM.
Au Bénin, on attendait hier lundi le verdict du procès de l'ancien directeur général de la police, mais l'audience a pris une autre tournure.
Oui, Philippe Ondegnon, accusé de cyberharcèlement et d'incitation à la rébellion. La criette s'est finalement déclarée incompétente. Les juges ont décidé de renvoyer l'affaire en instruction, Jean-Luc Aplogan.
Lorsque l'officier se présente à la barre pour écouter le verdict, il est surpris par la brièveté de la décision. Incompétence de la juridiction, renvoi en instruction et confirmation du mandat de dépôt. Cela a duré moins d'une minute. Les juges considèrent que les faits sont plutôt de nature criminelle. L'ex-patron de la police, Philippe Ondegnon, crâne nu, cartable sous le bras, retourne à sa place sans un mot. Un de ses conseils le rejoint pour échanger avec lui et c'est Maître Keke qui commente la décision. Au nom des conseils.
C'est une violation flagrante des droits de la défense. C'est des citoyens béninois qui sont en prison. On fait toute la procédure jusqu'à la fin et c'est à la fin qu'ils se déclarent incompétents. C'est de l'infamie judiciaire.
La défense va faire appel. En attendant, et c'est un peu inattendu, selon nos informations, le parquet spécial, insatisfait de la décision, a fait appel ce lundi même. Il demande à la Chambre des appels de réexaminer tout le dossier. Si la Chambre des appels confirme le premier jugement, le parquet devra saisir un juge d'instruction. Le cas contraire, elle devra prononcer une condamnation ou une relaxe. Pour rappel, le procureur avait requis fin avril 2 ans de prison ferme contre Philippe Ondegnon. Le calendrier de la suite de la procédure est encore inconnu. L'officier supérieur de police reste en détention. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La justice en France et le dossier Agathe Abiarimana. Elle est sous le coup d'une enquête depuis 17 ans maintenant pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Elle est la veuve du président tué alors Juvénal Habyarimana. Elle vit en France depuis avril 1994. Pour bien comprendre, je fais un petit rappel de chronologie. Février 2022, la juge d'instruction qui est chargée de cette enquête clôt l'enquête. Quelques mois plus tard, le parquet lui demande de poursuivre l'enquête, ce qu'elle ne fait pas vraiment. Le parquet n'est pas content. Il saisit donc, on est en septembre dernier, cette fois-là, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Celle-ci a examiné le recours il y a 2 mois. Maintenant, elle doit rendre sa décision à huis clos demain, mercredi. Sauf que, rebondissement, dans ce bras de fer entre la juge enquêtrice et le parquet. Vendredi, la juge a de nouveau clos son enquête, Alexandra Branjon.
Dans une ordonnance datée de vendredi, les juges chargés du dossier concluent qu'il n'existe pas à ce stade d'indice grave et concordant contre Agatha Biarimana, qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide. Si la rumeur est tenace, poursuivent les juges, elle ne peut faire office de preuve en l'absence d'éléments circonstanciés et concordants. Écrivent-ils. Les enquêtes sont désormais closes sans que la veuve de l'ancien président n'ait été mise en examen. Agatha Biarimana a été visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Une enquête ouverte après une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Âgée de 82 ans, elle échappe à ce stade à un procès. Cette décision intervient alors que le parquet national antiterroriste a saisi la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en septembre dernier en vue de sa mise en examen. Une audience est d'ailleurs prévue ce mercredi 21 mai.
Et la Fédération internationale des droits humains, qui est partie civile, déplore l'absence de mise en examen. Il y a des éléments à charge largement suffisants, dit la FIDH, contre Agatha Biarimana. Au Tchad, l'opposant Succès Masra, toujours gardé à vue, il devait être auditionné hier par les enquêteurs. L'audience n'a pas eu lieu et vous nous racontez pourquoi, Victor Moria.
Bandits, osez entrer si vous êtes des hommes. C'est ce qu'aurait lancé un agent de la coordination de la police judiciaire aux avocats de Succès Masra qui se présentaient devant le bâtiment où devaient être auditionnés leurs clients. Le collectif, composé d'une vingtaine d'avocats, explique avoir été menacé, insulté et surtout éconduit alors qu'il souhaitait venir assister à la première audience de l'ancien Premier ministre par les enquêteurs. Pendant ce temps, à l'intérieur, Succès Masra refuse de répondre aux questions des officiers de la police judiciaire en l'absence de ses avocats. Face à ce qu'il qualifie d'incident majeur, la défense demande et obtient un report de l'audition. Et ce matin, la procédure judiciaire devrait pouvoir commencer. Le président des transformateurs devra notamment justifier d'un audio enregistré en mai 2023 dans lequel il appelle à l'autodéfense des populations chrétiennes du sud du pays. Un appel que les autorités qualifient aujourd'hui d'incitation à la haine et désignent comme responsable des violences intercommunautaires de la semaine dernière. Victor Morian, Jamena, RFI.
Et ce sera le thème d'appel sur l'actualité dans une heure et demie sur RFI. On va terminer avec cet avis d'expert sur la crise climatique. Avis demandé par des organisations de la société civile africaine à la Cour africaine des droits humains et des peuples basée à Arusha en Tanzanie. En particulier, il demande, Jeanne Richard, de clarifier quelle est la responsabilité des États du continent africain par rapport aux populations touchées par les catastrophes climatiques.
C'est à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que le dossier a été déposé. Alfred Brownell, militant et avocat du Liberia, porte-parole de la plateforme africaine pour le climat, explique pourquoi.
Cette requête montre comment les catastrophes climatiques comme les sécheresses, les inondations et l'insécurité alimentaire qui en découlent portent déjà atteinte aux droits fondamentaux, en particulier dans les communautés pauvres et marginalisées, notamment le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau, au logement, y compris pour les générations futures.
Et pour protéger les populations et leurs droits fondamentaux, les associations demandent à la Cour de définir ce que les États africains sont tenus de faire pour mieux lutter contre le changement climatique.
Même si ces avis consultatifs ne sont pas juridiquement contraignants, ils sont souvent utilisés par les tribunaux dans leurs décisions et par les législateurs pour écrire de nouvelles lois. Cet avis pourrait donc être utile à la société civile et aux communautés pour obtenir des États une meilleure protection face au changement climatique et influencer leur stratégie climatique ou leurs lois sur l'environnement.
Si la Cour accepte d'examiner cette requête, elle deviendra la 4e Cour internationale à émettre un tel avis consultatif.
Jeanne Richard du service Environnement Climat d'RFI. Marion Cazanov, c'est à vous.
Merci Vincent Dublange, à tout à l'heure.